Bonjour à tous. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons dans l'émission Rencontre sur Radio Accor en partenariat avec l'association des Amis des Chemins de Saint-Jacques en Vienne.
Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle.
Aujourd'hui, nous retrouvons Françoise. Elle nous fait accompagner Amaury, pèlerin du XIe et XIIe siècle en route pour Santiago, et il traverse Poitiers. Françoise, bonjour.
Bonjour Claude.
Alors Françoise, rappelez-nous un petit peu, qui êtes-vous, que faites-vous ?
Alors je m'appelle Françoise, je suis une ancienne professeure d'histoire-géographie, et évidemment je m'intéresse beaucoup à l'histoire.
Donc c'est la raison pour laquelle vous nous parlez de ce pèlerin qui traverse Poitiers au Moyen-Âge.
Voilà, avec la commission Histoire de l'association de Saint-Jacques en Vienne, nous avons imaginé le parcours de pèlerin d'aujourd'hui sur les pas d'un pèlerin médiéval que nous avons appelé Amaury, en clin d'œil à Imri Picot. Et il a traversé déjà toute une partie de Poitiers, donc la semaine dernière ici. Et nous l'avons fait arriver par la voie romaine à Buxerolles, sur le chemin des Crêtes.
Oui, je vois. Il a passé le Clain.
Il a passé le Clain par le pont de Rochereuil. Il a traversé le bourg de Montière-Neuf. Il est monté vers le marché Neuf, vers la place de la Liberté actuelle. Puis, il a fait une étape devant la magnifique façade de Notre-Dame, qui lui a rappelé tout le sens de sa foi. Et il est descendu sur la cathédrale où nous l'avons laissé la dernière fois.
C'est cela. Nous étions arrivés là. Nous souvenons que nous sommes arrêtés devant la cathédrale et nous avons admiré la sortie d'un mariage. C'était le mariage d'Aliénor et de Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre. Alors maintenant, que fait notre pèlerin après cette merveille ?
Alors, il va se diriger vers Sainte-Radegonde, en passant toutefois à côté du baptistère, un des monuments les plus anciens de Poitiers, lié à la cathédrale. Il avait toujours cette fonction de baptistère. Puis, il arrive devant l'église de Notre-Dame.
Alors, il arrive devant l'église de Sainte-Radegonde.
De Sainte-Radegonde.
Justement, c'est bien ça ce que vous vouliez nous dire. Et comment se présente l'église à ce moment-là, le tombeau de la Sainte, son influence? Dites-nous tout ça.
Voilà. Alors, j'ai fait un lapsus, mais en fait, pas tout à fait, puisque elle s'appelait bien l'église de Notre-Dame au départ. Et ce n'est que plus tard qu'elle a pris le nom de Sainte-Radegonde, après la mort de la Sainte. Alors, Sainte-Radegonde, son culte est très populaire en Europe, au XIIe siècle. C'était une princesse thuringienne, qui est devenue prisonnière du fils de Clovis, qui s'appelait Clotaire. Et après en avoir fait sa prisonnière, plus tard, il en a fait sa femme. Elle était donc à la cour du roi Clotaire en Normandie. Puis, il est arrivé à un événement très dramatique. Clotaire a mis à mort son frère.
Oh, dramatique pour nous aujourd'hui, mais je pense qu'à l'époque, c'était relativement courant, banal même, non ?
Oui, mais son propre frère, Radegonde, a décidé de quitter le roi Clotaire. Il est allé tout près de la cour, il est allé à Noyon voir le célèbre évêque Médard, et il lui a demandé de la consacrer à la vie religieuse.
Elle quittait son rang de reine et de...
Comme voilà, ça. Elle a fait ce choix. En fait, c'était son désir le plus cher depuis qu'elle était jeune. Et elle est arrivée en Poitou, où elle disposait d'une propriété. Et quelque temps plus tard, en 557, elle est venue à Poitiers pour fonder un des premiers monastères féminins d'Occident. C'était donc le monastère Sainte-Marie, devenu ensuite le monastère Sainte-Croix. Après le moment où elle a obtenu des reliques de la vraie croix de l'empereur byzantin Justin.
Oui, je pense que comme reine de France, elle avait certainement des relations dans le monde occidental, et comme nonne, comme moniale, puisque c'était le début de sa vie, elle devait avoir conservé ses relations, qui fait qu'elle a pu obtenir cette relique.
Oui, bien sûr, tout en étant très tournée vers la prière, vers le secours des pauvres, elle n'a pas voulu être abbesse par modestie, mais en même temps, elle gardait ses rapports avec les grands de ce monde, et elle a contribué beaucoup à la paix à cette époque.
Donc elle avait une grande influence temporelle et son influence spirituelle.
Alors son influence spirituelle, son exemple a été suivi par de nombreuses moniales à qui elle faisait un enseignement. Et très vite, de son vivant, et même après sa mort surtout, elle a été auteur de nombreux miracles. Parmi ces miracles, il y en a un qui touche beaucoup les poids de vin, même s'il y a un côté extrêmement légendaire, c'est le fameux miracle des clés. Tout à fait au début, à l'extrême début du XIIIe siècle, les Anglais auraient menacé Poitiers, et un traître, il y en a toujours, avait décidé de remettre les clés de la ville aux Anglais, mais au dernier moment, n'ayant pu trouver les clés, on les retrouva dans les bras de la statue de Notre-Dame, donc à l'église Notre-Dame.
Et on dit que l'apparition de Hilaire, Radegonde et Marie aurait également mis les Anglais en déroute ou les aurait au moins désorientés. Partie de la légende dorée.
Oui, ça les a tellement désorientés, ces Anglais, qu'ils se sont mis à se combattre les uns les autres et ça a été un grand désastre pour eux. Voilà pour la légende. Et nous avons... notre pèlerin va donc pénétrer dans l'église Sainte-Radegonde. Aujourd'hui, elle est différente de l'époque, mais nous avons le clocher-porche et puis le chevet qui sont de l'époque de notre pèlerin Emery.
Donc il avait vu ça avec le parvis, ce petit parvis.
Avec le parvis qui était le parvis des chanoines, car l'église Sainte-Radegonde était gérée par des chanoines qui aussi rendaient la justice.
C'est cela, la justice se rendait à l'extérieur de l'église, d'où les bancs de pierre qui entourent cette entrée.
Voilà. Et donc, leur logement, d'ailleurs, était autour de l'église. Le pèlerin Emery va entrer dans l'église et il va s'incliner et vénérer le tombeau de Sainte-Radegonde. En général, on en faisait le tour et il va lui confier les intentions de son pèlerinage. En sortant de l'église, il va quand même regarder la cella de Sainte-Radegonde. La cella, c'était tout simplement sa demeure.
Oui, sa cellule. C'était plus grand qu'une cellule.
Un peu plus grand, puisqu'il y avait une petite chapelle attenante. Elle y vivait, elle y priait, elle lisait, elle était extrêmement cultivée. Et un an avant sa mort, elle aurait eu l'apparition du Christ qui aurait laissé l'empreinte de son pas sur la pierre que l'on retrouve encore aujourd'hui à l'intérieur de l'église.
Exactement, on la voit à l'église Radegonde à droite, elle est là. Oui.
Et en sortant de la cella, tout près, Emery voit l'abbaye Sainte-Croix elle-même, qui venait d'être reconstruite, donc qui était très importante. Et aujourd'hui, on ne voit que quelques ruines qui sont au pied d'un immeuble très près du baptistère.
Oui, c'est-à-dire l'abbaye Sainte-Croix était à une portée de mousquet, hein, de Radio Accor, puisque elle était juste à côté de chez nous. Nous sommes peut-être d'ailleurs dans les jardins ici, nous sommes dans les jardins du monastère Sainte-Croix de Sainte-Radegonde. Continuons notre périple.
Oui, donc Emery va aussi visiter, très près d'ici, la cella de Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, dont on rappelle qu'il était le premier évêque de Poitiers. Et cette demeure où aussi il a vécu, prié, où il est mort, était tout près de la cathédrale de l'époque. Lorsque Pèlerin arrive ici, cette chapelle est intégrée dans l'église du monastère des Augustins qui s'est alors installée. Et pour avoir une idée de l'endroit aujourd'hui, il faut savoir que cette chapelle se trouve dans l'enceinte du CRDP.
Donc nous remontons en ville. Ensuite, notre pèlerin remonte et il va monter, je crois, vers le palais des comtes ducs de Poitou.
Oui, il arrive devant le palais des comtes ducs d'Aquitaine. Ils sont comtes ducs depuis le début du Xe siècle et ils le seront jusqu'à la fin du XIIe siècle. C'est toute une lignée de Guillaume qui porte d'ailleurs des noms très originaux, Tête d'Étoupe, Le Gros, Le Grand, Le Toulousain, etc.
On connaît surtout
le
troubadour.
Et le troubadour, c'est le plus célèbre.
Oui, c'est celui qui est le plus connu, le plus célèbre.
Voilà. Et ils étaient maîtres d'un immense territoire qui allait, enfin, avec des tas de fluctuations, de la Loire aux Pyrénées, de l'Atlantique jusqu'au Massif central. Et leur puissance inquiétait souvent le roi de France. Notre Guillaume le Troubadour, par exemple, a refusé de rendre hommage au roi de France.
C'était un événement pour l'époque.
Oui.
Oui.
C'était aussi la preuve de sa puissance.
Bien entendu.
Alors, lorsqu'Emery arrive devant le palais, en remontant la rue de la cathédrale, eh bien, il voit un énorme donjon. Un donjon qui est entouré de quatre tours polygonales et qui est entouré de douves.
Il n'en reste pas grand-chose aujourd'hui.
Alors, il reste aujourd'hui ce donjon qu'on appelle la tour Maubergeon. Ça vient du mot Malberg, c'est-à-dire le tribunal qui existe depuis pratiquement les Mérovingiens. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui est plus tardif. Hein, ça date du XIVe siècle. Le donjon a été reconstruit à plusieurs reprises. Mais celui dont nous parlons aujourd'hui a été construit par Guillaume le Troubadour.
Et dans ce palais, le palais n'était pas seulement une demeure, c'était le lieu où se déroulaient toutes les activités sous la responsabilité des comtes du Poitou, duc d'Aquitaine. D'ailleurs, la politique, bien entendu, le judiciaire, comme vous avez dit, le culturel aussi.
Oui, alors donc, le comte duc tenait des plaides où il faisait venir ses vassaux et il pouvait résoudre les conflits entre eux. Il rendait la justice, mais effectivement, il organisait des fêtes, et ce sera le cas en particulier de Guillaume IX et même d'Aliénor après lui, avec des joutes de poésie courtoise, hein, puisque l'origine de Guillaume le Troubadour se trouve en Aquitaine, autour de Bordeaux. Et on entend cette langue d'oc que déjà Emery a entendue en visitant le marché le matin. Et donc Guillaume IX s'est révélé comme un très grand poète et il a fait venir toutes sortes de poètes comme Bernard de Ventadour.
Il devait se passer aussi des choses tout à fait amusantes dans ce palais, il y a quelques anecdotes.
Oui, alors nous savons que Guillaume IX était un bon vivant, et en particulier, il y logeait sa maîtresse, qui était la vicomtesse de Châtellerault, qui s'appelait Dangerosa, ça ne s'invente pas. Et les Poitevins la surnommaient la Maubergeonne, puisqu'elle vivait dans le donjon.
Ça lui allait très bien, la Maubergeonne habitant la tour Maubergeon. Bon, et parmi ces Guillaume, alors vous avez dit le Troubadour, connu des Poitevins. D'autre part, il y a la rue Guillaume le Troubadour qui existe encore aujourd'hui. Sa fille Aliénor, bien entendu. Est-ce qu'on a eu d'autres Guillaume qui ont été célèbres pour
Compostelle ? Oui, alors le fils du Troubadour et le père d'Aliénor étaient oui. Guillaume X, le Toulousain, qui lui a justement entrepris d'aller faire ce pèlerinage de Compostelle en 1137. Et donc, il avait l'intention d'arriver là-bas pour célébrer les fêtes de Pâques. Seulement, 8 jours avant d'arriver, le Vendredi Saint, il est décédé sur la route.
Oh ben c'était un jour sacré.
Alors, c'était évidemment un événement tragique. Et il a été d'ailleurs enterré dans la cathédrale de Compostelle. On peut encore y voir son tombeau. Et Emery, d'ailleurs, se promet bien d'aller le visiter en arrivant là-bas. Et nous voyons que c'était tragique, puisque toute l'Aquitaine se trouvait sans maître. Il n'y avait pas de fils. Et avant de mourir, Guillaume X a demandé que sa fille Aliénor soit protégée par le roi Louis VI. Elle l'a si bien été que Louis VI a pensé à son propre fils, le dauphin Louis, pour lui faire épouser Aliénor.
C'était une mauvaise idée. C'était une mauvaise idée. Je vous rappelle que nous sommes actuellement, vous êtes à l'écoute de Radio Accord, nous sommes dans l'émission Rencontre, et qu'aujourd'hui, Françoise nous fait suivre les traces d'un pèlerin à travers Poitiers au 12e, 11e et 12e siècle. Et nous sommes arrivés devant le palais des comtes de Poitou, duc d'Aquitaine, que tout le monde connaît et appelle populairement le palais de justice. Mais c'était le palais des comtes et duc d'Aquitaine. Et nous allons continuer avec notre pèlerin qui va se rendre maintenant vers...
Vers Saint-Hilaire, c'est vraiment le but de son voyage. En allant vers Saint-Hilaire, il passe devant une des plus anciennes églises de Poitiers, qui s'appelle Saint-Porchaire. Porchaire est le nom d'un abbé de Saint-Hilaire du IVe siècle. Et il y voit une très belle tour-porche, un petit peu massive, mais d'un grand équilibre.
C'est celle qu'on voit tous les jours aujourd'hui quand on passe.
Voilà, c'est le seul vestige de l'époque romane, ici, dans cette église. Et en tout cas, les Poitevins gardent encore ici, dans cette rue qu'on appelait à l'époque la rue de l'Aiguillerie. Rappelons que les Poitevins travaillaient le métal, le fer, d'une façon extraordinaire.
Oui, vous avez dit que c'était de très bons forgerons.
Voilà. Et donc là, c'est Aimery Picot, l'auteur du guide pèlerin du XIIe siècle, qui nous rapporte un miracle, puisque des pèlerins qui avaient fait le pèlerinage qui était arrivé jusqu'à Compostelle, à leur retour, traversent Poitiers et demandent aux riverains de Saint-Porchaire, de cette rue de l'Aiguillerie, un endroit pour loger, disent-ils, pour l'amour de Dieu et de Saint-Jacques.
Et alors ?
Et tout le monde trouve une excuse et refuse de les recevoir. Sauf dans la maison la plus modeste, un pauvre leur donne l'accueil. En pleine nuit, un grand incendie se déclare et détruit toutes les maisons de la rue, sauf la maison du pauvre.
Celle du généreux hospitalier.
Voilà.
Et voilà une belle histoire, au moins.
Aimery Picot en profite pour tirer la morale en montrant cette nécessaire hospitalité au nom du Christ.
Bien entendu. Et d'autre part, c'était d'autant plus important que les pèlerins n'ayant rien ou pas grand-chose, il fallait quand même montrer que l'hospitalité était plus que l'accueil d'un pèlerin. Vous l'avez bien dit, c'était au nom du Christ. Alors, continuons notre périple.
Donc, Aimery va poursuivre son chemin jusqu'à la basilique Saint-Hilaire, qui est située dans ce qu'on appelle le bourg Saint-Hilaire.
Comme Montierneuf, Saint-Hilaire était hors des murs.
C'était hors des murs, donc de l'enceinte romaine. Et comme Montierneuf, à la fin du XIIe siècle, le bourg Saint-Hilaire a été aussi intégré dans la cité, au moment, j'ai peut-être omis de le dire jusqu'à maintenant, au moment où la cité s'est constituée en commune. Il faut rappeler que c'est Aliénor d'Aquitaine qui, en 1199,
accordé des lettres et des privilèges.
Voilà, la commune de Poitiers. Elle s'était un peu constituée avant, mais elle n'avait pas été vraiment reconnue.
Bah, c'est une des plus anciennes de France.
Alors. Oui, certainement.
Oui. Alors, nous sommes à Saint-Hilaire.
Et le pèlerin Aimery contemple une basilique magnifique, très importante, qui fait 90 mètres de long. Et il est frappé à la fois par la tour romane, très importante, et c'était par le porche qui était au pied de cette tour que les pèlerins de Compostelle pénétraient dans l'église, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, cette entrée ayant été supprimée. Mais avant d'entrer dans l'église, ils veulent voir le chevet. Le chevet est aussi un exemple extraordinaire de l'architecture poitevine de cette fin du XIe siècle où, comme à Montierneuf, on utilise la pierre de taille et puis on fait ce chevet magnifique avec quatre absidioles et donc un...
C'était
en même temps, il était sculpté de façon admirable.
Oui, c'était la halte la plus connue du chemin de Saint-Jacques, enfin sur la voie de Tours. On connaissait comme Saint-Hilaire était l'église Jacquaire.
Oui, par excellence. C'est-à-dire qu'on pouvait à la rigueur ne pas aller jusqu'à l'église Saint-Radegonde, mais ce n'était pas possible de ne pas passer par Saint-Hilaire.
Ok, très bien, oui.
Alors, lorsque le pèlerin entre dans Saint-Hilaire, d'abord il est frappé par cette immense nef dont on a une faible idée parce que celle d'aujourd'hui n'est plus celle du XIIe siècle. Ce qui correspond au XIIe siècle, c'est davantage le chœur et le transept qui sont surélevés.
Oui, qu'on voit très bien, oui.
Et qui se trouvent au-dessus du tombeau de Saint-Hilaire.
Mmh.
D'ailleurs, Emery va faire comme la plupart des pèlerins. Il va faire le tour du tombeau en empruntant le déambulatoire, qui est d'ailleurs bordé de très belles arcatures avec de superbes chapiteaux. Et il va
se recueillir
devant le tombeau de Saint-Hilaire, qui était quand même cet évêque, ce premier évêque de Poitiers, qui avait défendu le dogme de la Sainte Trinité contre l'hérésie arienne.
Oui, justement, je voulais vous demander que l'influence de Saint-Hilaire, on pourrait s'imaginer qu'elle était surtout sur Poitiers et le Poitou, mais ça a été une influence sur l'ensemble de l'Église.
Oui, d'abord sur ce plan religieux, sur ce plan du dogme, il faut quand même se rappeler qu'à l'époque de Saint-Hilaire, l'ensemble de la Gaule avait finalement adopté l'arianisme, et c'était un courage certain que de se baser sur ce fameux concile de Nicée et de défendre ce dogme de la Trinité.
Oui,
d'ailleurs été exilé pour cela jusqu'en Phrygie, c'est-à-dire en actuelle Turquie, à cause de ses prises de position.
Oui, on a toujours remarqué d'ailleurs que c'est à la suite des hérésies et des schismes que le dogme a été renforcé ou précisé. Bon, et c'était le cas, et en plus, Hilaire était le défenseur de ce dogme. Je comprends qu'il lui fallait un certain courage à l'époque pour s'opposer à toutes les populations.
Et en même temps, ce grand théologien a été à l'origine d'écoles, ce qui fait que depuis au XIe, XIIe siècle, il y a une sorte d'école autour de la basilique Saint-Hilaire, très réputée sur le plan intellectuel.
Oui, il est docteur de l'Église.
Voilà. Donc,
Notre pèlerin arrive en fin de soirée, là. Il va voir... Qu'est-ce qui est encore important dans Hilaire ? C'était géré par des chanoines ?
Alors,
c'était...
les chanoines géraient le culte et ils avaient, par exemple, fait venir le pape Urbain II en 1096, alors qu'il venait juste de prêcher la première croisade. Il était venu à Montierneuf déjà introniser l'église de Montierneuf, et le voilà à Saint-Hilaire pour fêter le 13 janvier la Saint-Hilaire de façon extrêmement importante.
Notre pèlerin est donc à Saint-Hilaire. Il va dîner rapidement, sans doute, et il va quitter la ville ensuite. On n'est pas loin de la sortie.
Voilà, mais il est tard.
Il est tard.
Et il souhaite dormir, et il va aller dans un établissement très proche de Saint-Hilaire et qui dépend de Saint-Hilaire et qui s'appelle Saint-Pierre l'Hospitalier.
Il y a toujours la rue Saint-Pierre l'Hospitalier.
C'est son ancien nom, hein, ça s'appelle la rue du Général de Marsay aujourd'hui.
Oui, mais on voit la plaque qui marque le nom ancien de la rue. Oui.
Enfin, il pense à partir le lendemain matin.
Oui.
Et il va emprunter la rue Sainte-Trièse, qui était une sainte liée aussi à Saint-Hilaire. Et il va quitter Poitiers par la porte de la tranchée, formée de deux grosses tours réunies par une poterne, et en haut de laquelle on peut voir les trois statues de la Vierge, de Saint-Radegonde et de Saint-Hilaire, les deux derniers étant avec les patrons de Poitiers.
Et il se dirigeait vers Ligugé, vers Saint-Mexant.
Alors, au XIIe siècle, enfin 11-12e siècle, c'est Saint-Mexant qui est l'orientation privilégiée à cause des reliques de Saint-Léger qui sont très réputées.
Eh bien, Françoise, merci beaucoup de cette intervention très intéressante. Et pour tous nos auditeurs, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau témoignage, un témoignage de pèlerin, un témoignage d'une personne qui s'intéresse encore aux événements jacquaires.
Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons